les jardinières.
Salut à tous, bienvenue dans les jardinières et bonjour à vous Sarah.
Bonjour Stéphanie, c'est encore une belle journée de jardinage qui nous attend. Et pour bien la débuter, on accueille Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy qui nous accompagne jusqu'à 8h. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Les bourgeons sont sortis, les fleurs commencent à éclore, les arbres fruitiers sont plus colorés que jamais. Alors pas toujours très agréable pour les allergiques au pollen, mais un vrai bonheur pour les yeux et bien sûr pour les adeptes de jardinage. Que faire en ce moment au jardin ? Que peut-on planter à cette période? Quelles fleurs et arbustes ont particulièrement besoin de soins? On vous donne plein de conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Fabrice Rondet.
Et des questions que vous pouvez lui poser en direct grâce à plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Amateur de jardin ou véritable assidu, Fabrice Rondet vous répondra personnellement. Et si vous n'avez pas envie de prendre la parole de si bon matin, vous pouvez opter pour le SMS en envoyant le mot « jardin », un espace suivi de votre question, le tout au 939. Et il existe également le formulaire internet que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que Fabrice Rondet puisse développer sa réponse au maximum.
Tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
La semaine dernière, on avait reçu la question suivante. J'ai un peu de terrain, une surface de 10 mètres carrés, qui était relativement plat avant l'hiver. Maintenant, il n'y a pas de trous apparents, mais plein de creux. Je ne vois pas de trous, mais comme s'il y avait du vide en dessous. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que cela peut être, Fabrice? C'est Jean-Daniel de La Chaux-de-Fonds qui nous posait cette question la semaine passée.
Alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est que ce serait peut-être un terrain qui a été remblayé il y a quelques temps. Et puis on sait que le terrain, il peut avoir un coefficient de foisonnement qui peut avoisiner les 20-25%. Ça veut dire que s'il a été remblayé il y a peu de temps sur une épaisseur de 40-50 cm, le terrain naturel, quand il va reprendre sa place, ben forcément, il va s'affaisser un petit peu par endroits. Donc on pourrait avoir cette succession de trous de bousse. Après, la deuxième chose, c'est un terrain qui est un petit peu plus vieux. Si on est dans un terrain qui est un peu argileux, avec le chaud, le sec, on a un terrain qui aurait tendance à se rétracter. Si c'est plutôt mouillé, il va gonfler un petit peu. Donc le terrain, là également, il va travailler pour donner naissance à ces trous, ces bousses. Après, dans le pire des cas, on peut avoir des réseaux de galeries qui fait que le terrain, il peut s'affaisser. Ou alors, on a encore une solution, c'est que peut-être qu'il y avait un arbre par là avant, qu'il a été coupé, la souche n'a pas été extraite. Si on a remis un peu de la terre dessous, par-dessus la souche, qui a été maillée un petit peu en dessous du niveau de la terre, la souche va pourrir. Puis 8-10 ans après, ce qui peut se passer, c'est que ce pourrissement, ben, la terre, elle s'affaisse un petit peu. Donc dans tous ces cas, ce qu'il faudrait faire, c'est rapporter un petit peu de la terre, mouliner un petit peu là-dessus, puis refaire une retouche de gazon, je pense. Ça doit être une de ces solutions-là, peut-être.
Merci beaucoup Fabrice. Et quelqu'un s'est levé à l'aube pour poser une question à vous Fabrice Rondet. Sarah, il y a quelqu'un en ligne.
Oui, c'est Christine de Hall qui a composé le 0900 à 70 20 20. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors moi, bonjour, j'aimerais poser une question à propos de myrtilliers. Je voudrais planter deux myrtilliers, j'ai déjà en pot, ils sont magnifiques. Je voudrais savoir quelle terre spéciale il faudrait mettre.
Il faut mettre une terre acide, tout simplement. Il faudra aller chez un revendeur et puis vous lui dites là ce myrtillier que vous aimeriez planter, puis il va vous désigner tout simplement une terre acide. Après, vous faites une bonne fosse de plantation. En tout cas, ce qui serait bien, c'est 60 par 60 par 60 de profondeur par plante. Et puis après, vous pouvez mettre un géotextile ou une bâche sur tout le tour pour pas que le terrain se mélange à cette terre acide. Et après, vous faites votre plantation, vous arrosez abondamment parce que la terre acide va avoir tendance à beaucoup se tasser. Et puis après, vous pouvez faire un petit apport d'ici quelques temps si elle venait à se tasser. Et puis, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Il n'y a pas d'entretien spécial après, une fois que la plante est bien partie, tout ça?
Alors après, ben, comme toutes les plantes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre un petit peu l'arrosage au niveau de la suite. Par rapport à la saison qu'on a, si on a de la bise, si on a du vent, si on n'a pas de pluie. Et puis après, ce que vous pouvez faire dans les années qui vont venir, c'est éventuellement rapporter un petit peu de la tourbe ou de l'engrais spécial pour justement rester toujours dans cette composition acide qui sera favorable à ces myrtilles.
D'accord, merci bien, bonne journée, merci.
Merci Catherine, à vous aussi, au revoir. Non, c'était Christine qui était avec nous et c'est Catherine qui nous a écrit. Elle a une question à propos des branches de forsythia et de cerisier japonais qu'elle a dans l'eau et qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit faire des racines et les replanter plus tard? Nous avons deux arbres qui sont très beaux et que nous devons enlever.
Alors, ce principe de multiplication, on appelle ça le bouturage. Alors, le bouturage, effectivement, on peut prendre une branche qu'on aura coupée avec un outil qui est bien tranchant sur une longueur à peu près de 20 à 40 cm, mais autour de 30-40 cm, c'est pas mal. Il faut couper comme il faut sous un bourgeon pour la partie basse de la branche, en dessus d'un bougeron à toujours 4-5 mm pour la partie haute de la branche. Il faut le mettre dans de l'eau, on attend que ça fasse de la racine, et après on peut le planter dans le terrain. Ce qu'il faut faire attention, c'est une chose, ça peut paraître un petit peu bête ce que je vais dire, mais on peut dans la précipitation mettre la branche à l'envers, donc ça ne va pas fonctionner. Mais on peut aussi faire ce travail, par exemple, dans un terreau très frais, très, très meuble, et puis l'enracinement va se mettre en place aussi bien facilement. Donc à la limite on peut directement le mettre en place dans un pot et puis là on aura une humidité, mais après on n'a pas le contrôle visuel, peut-être c'est peut-être l'inconvénient.
Ça prend du temps de récupérer un arbre comme ça?
Non, en général le forsythia c'est une plante qui démarre très rapidement, ça va vite faire de la racine et puis c'est une plante qui a une bonne végétation, donc ça devrait très vite aller.
Et on voit que le soleil attire les gens au téléphone, en tout cas nous avons encore quelqu'un en ligne, Sarah.
C'est Carmen de Delémont qui est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, monsieur, j'ai un olivier qui a passé l'hiver dans un garage, je l'ai arrosé, et puis maintenant je l'ai sorti, ça fait à peu près 3 semaines. Il allait bien, et cette semaine, j'ai découvert qu'il faisait pas mal de petites feuilles jaunes. Donc, il perd un peu ses feuilles. Est-ce que je l'arrose trop ou trop peu? Je ne sais pas. Alors, il était très beau, puis là, il me fait ses feuilles, j'ai un petit peu du souci.
Dans votre garage, il faisait quoi comme exposition au niveau de la lumière, et puis il faisait quoi comme température
Il était devant une fenêtre, oh, qu'est-ce qu'il y avait là, la température dans le garage, hiver, oh, je pense 10, 12. Mais là, je l'ai arrosé, j'avais entendu qu'il fallait l'arroser à peu près un litre par mois. C'est ce que j'ai fait, il est resté très beau, puis quand je l'ai sorti, il était beau, puis maintenant, cette semaine, j'ai découvert qu'il faisait ses feuilles jaunes.
Alors, ce qui se passe, c'est que dans votre garage, donc au niveau lumière, déjà, apparemment, il était bien exposé. Au niveau arrosage, oui. Il avait les apports nécessaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dehors, ben, la lumière, il l'a toujours. L'arrosage, vous n'avez rien changé. Mais par contre, ce qui a changé pour lui, c'est qu'il se retrouve d'une température assez confortable, à 12 degrés, sans courant d'air, avec une bise qui tire ces derniers temps. Donc, tout ça va quand même perturber un petit peu la plante. Il faut qu'elle se réadapte. Donc, après, ce qu'on pourrait faire, il y en a peut-être une période de transition qu'on peut observer. On a cette période des saintes glaces qu'on parle chaque année. Donc, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est la plante, la rentrer la nuit et la sortir la journée. C'est clair que c'est un travail supplémentaire, tout dépend aussi de l'importance de votre peau, mais peut-être que justement la nuit, on a une nuit passée où c'est qu'on était autour des 2 degrés, 3 degrés, vous voyez, ça fait quand même 10 d'écart avec votre garage, donc dans la journée, on va passer de 10 degrés aussi à des 22, 25 degrés, si l'on est en plein soleil, ça peut même monter un petit peu plus haut, donc c'est quand même des chocs thermiques au niveau de la nuit, au niveau de la journée, qui sont à prendre en considération. Donc ça met quand même un petit stress au niveau de la plante qui va réagir comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas baisser les bras, protéger au niveau de ça, au niveau de la nuit, rentrez l'heure, sortez l'heure après les saintes glaces, d'une façon continue, vous pourriez le laisser dehors. Et puis après, s'il y a des journées trop fraîches qui se mettent en place, ben, gardez-le peut-être un petit peu à l'intérieur. Et puis je pense que votre plante, si elle fait 2-3 feuilles jaunes, c'est pas grave, parce qu'après il va ressortir quand même des nouvelles feuilles. Et puis ensuite, votre plante va se rhabiller complètement pour la partie de fin mai, juin, pour être au plus joli de sa forme cet été.
Et puis je voulais encore vous poser une question au niveau arrosage. Donc il est vraiment au sud, il est en plein soleil, donc en plein été, il faut beaucoup l'arroser, est-ce qu'il faut mettre de l'eau dans l'assiette?
Non, en général, c'est pas très bien d'avoir trop d'eau, parce que c'est quand même des plantes de conditions plutôt sèches. Hein, c'est plutôt des plantes méditerranéennes. Donc, par rapport à ça, ce qui est bien, c'est vous arroser. Ça dépend des températures. Ça dépend aussi des courants de la bise qui peuvent sécher un petit peu les plantes. Après, dans des pots aussi, on a le soleil qui tape dessus, donc ça va sécher plus vite. Mais ce qu'il faudrait, c'est vous arroser, vous laisser dessécher un petit peu là-dessus, et après, vous arroser. Ce qui est important, c'est que la plante n'ait pas les pieds dans l'eau, parce qu'une plante, les pieds dans l'eau, elle va mettre au départ les mêmes symptômes pour la plupart du temps qu'une plante qui manque d'eau. Donc du coup, nous, on va rajouter de l'eau, donc du coup, on va l'asphyxier. Donc laissez plutôt ressuyer entre deux arrosages. Vous allez prendre un rythme en observant les feuilles pour que les feuilles ne baissent pas de l'aile. Et puis, si vous arrivez à trouver le bon rythme par rapport à ça, vous avez une plante qui va partir très fort.
Qui va repartir. Okay, donc, merci beaucoup.
Merci,
je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Si vous voulez faire vous aussi comme Carmen, il vous suffit de prendre votre téléphone, de composer le 0901 70 20 20 et de poser votre question à Fabrice Rondet qui est là pour vous jusqu'à 8h ce matin. Et vous pouvez aussi vous envoyer votre question par écrit, par SMS. Vous tapez le mot jardin, un espace et votre question au 939. Et il y a aussi le formulaire internet que vous trouvez sur notre site. Il est 7h22.
Les jardinières.
Nous avons reçu un SMS au 939 avec une question pour vous, Fabrice Rondet. Nous avons un août et voilà deux jours, les feuilles deviennent jaunes. Pourquoi ?
Ça, c'est assez compliqué de répondre par téléphone comme ça sans voir la plante, parce que si c'est que depuis deux jours... Il faudrait savoir si cette plante, c'est une jeune plante, une ancienne plante. Si c'est une jeune plante qui a été plantée il y a peu de temps, ou l'automne dernier, ça peut être juste un petit peu une sensibilité par rapport au démarrage de la saison. Maintenant, au niveau parasites, maladies, on n'a encore on a rien du tout qui se développe en ce moment. Donc, je pense qu'on peut écarter ça. Peut-être s'il y a une taille, on a peut-être un petit peu des feuilles qui ont été blessées, des choses comme ça qui peuvent faire jaunir. Après, il faudrait regarder au niveau du sol s'il n'y a pas des problèmes, par exemple par rapport à des taupinières ou des trous. Franchement, comme ça, c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense que s'ils ont un professionnel dans le coin, ce serait bien de le faire intervenir pour regarder. Il n'y a pas d'éléments maintenant flagrants en place qui peuvent dire c'est ça ou c'est ça en étant catégorique.
Est-ce que c'est assez urgent ou il faut le faire dans l'immédiat ou on peut attendre ?
Ça dépend de la proportion de feuillage qui jaunit. Si c'est une ou deux feuilles par-ci, par-là, c'est pas forcément très grave parce que les plantes persistantes se régénèrent. Donc elles vont perdre quand même du feuillage pour remettre des nouvelles feuilles. Si c'est des feuilles de l'intérieur, elles sont un peu privées de lumière. Donc la plante, elle se dégarnit toujours un petit peu à l'intérieur pour être... plus luxuriante sur le pourtour de la plante. Donc il faut déjà voir ça aussi. Et puis après, si c'est un 5%, je pense qu'on peut le tolérer encore si le reste est beau vert et puis que les petites pousses sont en train de s'allonger, qu'il y a du bourgeonnement, on voit que les pousses essayent de démarrer. On n'a pas de quoi se faire peut-être de soucis. Mais après, si on voit que c'est du 20, 30, 40%, là, il y a un facteur... Qui a cherché au niveau de l'enracinement, au niveau, je sais pas, il y a quelque chose, ou alors une bête qui aurait amoché le tronc. En amochant le tronc, on empêche la sève de circuler entre la partie souterraine et la partie aérienne, donc du coup, on peut avoir aussi une fragilisation de la plante, et puis ça, c'est à prendre en considération aussi. Il faudrait regarder tous ces paramètres-là sur place, visuellement.
Merci Fabrice. Et du coup, on va parler à présent gazon. Hein, on entend les tondeuses dans les quartiers ces derniers temps. Mais Pascal Decourou, il a un petit problème parce qu'il a un vieux gazon. Il l'a scarifié, donc il a tout bien fait. Il a mis de l'engrais, il l'arrose régulièrement. Pourtant, la mousse continue à pousser plus vite que le gazon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait faux, Fabrice ?
Alors, pour la scarification, moi, je pense déjà trop tôt dans la saison. Normalement, la scarification, on la met en place avec un traitement devant. Et puis un sursemis derrière pour justement recombler les trous. Parce que quand on scarifie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le terrain en ayant enlevé la mousse, les mauvaises herbes et une partie du gazon et surtout le feutrage de ce gazon. Donc on va avoir la terre qui va être apparente. Et cette terre, il faut la refermer avec un sursemis. Donc déjà ça, il ne l'a pas mentionné dans son SMS, donc je pense qu'il a peut-être passé à côté. S'il ne l'a pas fait, ben c'est très bien, c'est un bon réflexe, mais du moment donné que la terre n'est pas chaude, ce sursemis, donc la germination, elle va prendre un certain temps. Donc si avant ça, il n'a pas fait de traitement anti-mousse ou herbicide, c'est clair qu'avec le scarificateur, il aura extrait cette mousse, mais par contre, la souche, elle sera toujours verte. Ça veut dire que ben malheureusement, ça va repartir aussi sec. Donc là, on n'a pas une bonne opération qui s'est mise en place, une bonne logique des choses qui s'est mise en place. Donc ce qu'il faudrait, c'est attendre qu'on ait une terre qui se soit réchauffée pour faire les traitements anti-mousse herbicide sélectif. Après ça, on se clarifie. Après, on met un sursemis en place. Et après, on a un effet rapide qui s'opère au niveau de la germination qui va étouffer justement les mousses et les mauvaises herbes qui devraient se développer. Mais comme on a déjà tué tout ce qui était ancien, ça devrait aller beaucoup plus vite dans ce sens-là. Après, l'engrais, c'est juste. Mais pour les scarifications, attendez encore un petit peu et puis procédez dans cet ordre-là, c'est très important.
À propos de la scarification, justement, est-ce qu'il y a débat? Parce qu'on entend certains professionnels qui disent qu'on peut déjà le faire. Enfin, est-ce qu'il y a deux écoles et pourquoi c'est... on ne sait pas trop quand la faire, cette scarification?
Ben, disons que les produits des herbicides sélectifs qu'on applique pour être... pour la plupart à 100% efficace, il faut que la nuit soit supérieure à 10 degrés pour être sûr que ça marche bien. Donc maintenant, on est encore un petit peu en dessous. Donc attendons. Maintenant, c'est vrai que les gazons, ils poussent, mais un peu par la force des choses. On n'a pas encore une terre qui est très chaude. C'est comme dans les jardins potagers, on dit toujours attendons les saints de glace pour que tout ce qu'on sème, tout ce qu'on plante reparte rapidement. Donc les gazons, maintenant, ils poussent, mais c'est que le début. Donc si on attend encore 3-4 semaines, on aura vraiment un démarrage rapide. Après, la graine qu'on va mettre en place... on a vu comme au jardin, il faut que ça germe, il faut que ça parte vite. Si on, au lieu de partir en 3-4 semaines pour rhabiller un terrain, si on la plante trop vite, on va mettre 6 peut-être semaines. Donc la mauvaise herbe et la mousse pourraient redémarrer avant, selon comment on a fait les choses justement avant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tondre régulièrement et puis apporter de l'engrais pour fortifier ce gazon, pour que justement après il soit très réactif aux interventions qu'on va mettre en place.
Merci Fabrice, en tout cas, pour toutes ces réponses à vos questions. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous qui nous écoutez, vous avez donc jusqu'à 8h pour poser votre question à Fabrice Rondet.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
De retour dans les jardinières, le samedi matin, c'est notre activité favorite. On se prépare à jardiner. Ce matin, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy, qui est avec nous jusqu'à 8h. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Les jardinières, c'est une émission qui vous appartient. Si vous avez des questions au sujet de vos plantes intérieures et extérieures, de vos arbustes, de vos fruitiers et de vos pelouses, n'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre jardinier professionnel Fabrice Rondet. On lira également toutes vos questions reçues par SMS. Il vous suffit d'indiquer le mot jardin, un espace, puis votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Et sur notre site, vous trouvez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet émission questions jardinières. Si vous choisissez de nous écrire, n'hésitez pas à nous fournir le plus de détails possible afin d'obtenir une réponse vraiment complète. Et pour tout complément, vous pouvez toujours appeler notre standard au 0901 70 20 20.
Et la semaine dernière, on avait reçu une question de Céline de Sonsbourg qui se demandait comment ne plus avoir de mauvaises herbes dans les copeaux de bois, Fabrice.
Alors je pense tout simplement que les copeaux de bois, ils ont été mis en couche trop peu importante, ou alors que ça fait quelques années qu'ils sont en place et puis on a une épaisseur qui s'est dégradée, ils sont transformés en humus. Et puis donc il faudrait recharger tout simplement cette place pour avoir une épaisseur d'environ 8 cm. Donc après ça devrait maintenir une bonne humidité et puis ça devrait empêcher un grand nombre de mauvaises herbes de se développer.
Chantal de la Brévine nous a écrit « J'ai reçu un lys et on m'a dit que c'était une fleur d'intérieur. Existe-t-il deux sortes de lys où je peux le mettre comme les autres dans mon jardin ?»
Alors, il faudrait tout simplement vérifier sur l'étiquette. Avec l'étiquette, vous allez avoir plusieurs noms. Si vous, vous tapez ces noms sur un moteur de recherche, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement voir à quel type de plante vous avez affaire. Et là, vous pourrez avoir pour les entretiens, le développement, l'exposition, toutes les choses qui sont indiquées pour faire juste.
Et on a reçu une question de Simone de Courtetel. J'aimerais planter des salades, des oignons, des poivrons et des tomates dans des caisses en bois, genre des caisses de vin. Que faut-il mettre pour protéger l'intérieur du bac? Du plastique comme des sacs poubelles ou un feutre géotextile? Parce qu'avec le plastique, j'ai peur que cela pourrisse. Fabrice, est-ce que vous pouvez venir en aide à Simone?
Alors, pour la caisse en bois, déjà, il faut choisir une caisse qui soit bien rustique parce qu'on va être soumis à l'humidité. Et puis, ça pourrait poser peut-être problème. Après, on a un problème caisse à vin. Peut-être faudrait voir l'épaisseur aussi pour qu'on ait suffisamment de profondeur pour le développement des racines qu'on veut mettre de nos légumes dedans. Et puis, une fois qu'on a fait notre choix, moi, j'opterais quand même plutôt pour le plastique, un plastique simple. Par exemple, même des sacs de terreau que vous allez employer pour garnir ces petits pots. Et puis après, la différence qu'il y a entre le géotextile, c'est que lui sera conducteur d'humidité, donc il va retransmettre en bois, ce qui va mettre un pourrissement en place. Tandis que si vous mettez un plastique, le but qu'il y a, c'est justement qu'il n'y ait pas par capillarité le bois qui pompe pour se dégrader rapidement.
Mais donc le fait qu'il y ait de l'eau dans le fond du bac et qui reste donc bloqué par le plastique, ça ne va pas forcément entraîner de...
Alors ce qu'il faut pour le fond, il faudrait mettre une couche drainante. Comme on fait dans un pot de fleurs ou dans des choses comme ça, il faudrait mettre une couche drainante pour pouvoir évacuer ça. Après, le problème qu'il y a, c'est le mieux, ce serait d'avoir pas de fond. Et puis ces bacs, les poser sur une partie où c'est qu'on peut évacuer les eaux. Je ne sais pas si elle va les mettre suivant l'importance des bacs. Des fois, les gens, ils les posent directement sur la terre. Ou alors, si elle fait des chevalets ou des tables, d'avoir un bac récupérateur, un peu comme une assiette d'un pot de fleurs, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait construire ça de cette façon, mettre une couche drainante, mettre un feutre, un géotextile, et ensuite le terreau. Mais sur le pourtour du bac en bois, là, il faudrait plutôt partir avec quelque chose qui puisse bien nous séparer, justement, l'humidité de la terre de notre bois.
Sania du Val de Travers a reçu un pêcher et elle se demande si à 740 mètres d'altitude, elle peut espérer un jour voir des pêches.
Alors, c'est pas impossible. Ce qu'il faut faire, c'est le planter dans une situation très ensoleillée, très favorable, à l'abri des courants d'air, de la bise, qui au printemps, quand la plante se réveille, justement, ne soit pas soumise à ces gels tardifs qui portent ces grands préjudices sur la plante elle-même au niveau du feuillage, mais aussi, surtout, à la floraison. Donc, il faut vraiment le protéger. Puis même, pourquoi pas, quand ils sont en fleurs, mettre une protection, on le voit de temps en temps, mettre une protection sur la couronne de la plante. Il faut voir si c'est un espalier, ben, elle peut le plaquer contre un bâtiment et puis mettre comme un drap devant pour protéger cette plante et cette floraison de ces froids tardifs.
Mais elle pourra avoir des pêches, vous pensez?
C'est possible, ça, on l'a déjà vu, oui, bien sûr.
Elle pourra se régaler.
Mmh, oui. On a des pêches dans son jardin, on en sort plus.
Envie.
On a reçu une autre question par formulaire, cette fois-ci de la part de Martial de Perry, qui nous demande la chose suivante. Comment puis-je enlever la mousse sur le tronc et les branches des arbres fruitiers? Mousse sur le tronc et les branches.
Oui, alors ça, il y a des produits qu'on trouve dans le commerce pour ça. Donc, il pourra se rendre chez n'importe quel revendeur qui va lui proposer un ou deux produits. Après, on a une possibilité aussi, pourquoi pas, de frotter ça tout simplement pour l'enlever. Après, si c'est que quelques développements par-ci, par-là, ça ne va pas altérer forcément la plante. Donc, on peut se contenter jusqu'à une certaine mesure de les laisser non plus. Il n'y a pas besoin d'être maniaque, ça va pas avoir un effet plus négatif que ça sur la plante si ça dépasse pas, si la plante n'est pas vraiment couverte, n'est pas étouffée. Après, ça peut être l'exposition qui fait aussi ça. Donc, s'ils sont en nord-ouest, ça peut être favorable au développement. Mais on a vu que dans les forêts, on a de la mousse, justement comme ça. Puis on voit que les plantes n'en meurent pas forcément. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et puis, après, s'il veut aller soit mécaniquement, soit à l'aide d'un produit.
Mais ce n'est pas un signe de vieillesse ou d'affaiblissement de l'arbre?
Non, ça peut être un problème tout simplement aussi d'exposition. Comme on le disait avant, dans les forêts, on dit toujours pour se repérer, ben regarder le côté, puis on sait la direction, puis voilà. Donc c'est un peu comme ça, on voit que les plantes n'en meurent pas forcément. Mais ça dépend de nouveau quelle présence il y en a par rapport à la plante, si c'est une jeune plante, si c'est un petit arbuste comme un résiné ou si c'est un gros fruitier. Oui.
Merci Fabrice Rondet, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Donc il vous reste encore quelques minutes pour nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou pour nous écrire un SMS au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Lauriane des Russies nous a écrit « J'ai un hibiscus qui n'a pas encore fait des pousses ce printemps, mais les branches sont souples et vertes. Il a été replanté en août 2017. Que puis-je faire pour l'aider à reprendre ?»
Alors, il n'y a rien à faire parce que tout simplement, c'est le dernier petit arbuste qui va mettre de la feuille dans votre jardin. Donc, chaque année, vous allez constater la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez-lui le temps de redémarrer tout tranquillement et puis ça va se faire dans les prochaines semaines. Donc, pas de souci, il y a l'hibiscus chaque année, il repart plus tardivement.
On a aussi reçu une question de Muriel du Loc. Elle aimerait savoir si, après avoir enlevé un maximum de liserons, elle pourrait recouvrir la terre avec des copeaux de bois pour en restreindre la repousse. Est-ce que ça marche selon vous, Fabrice?
Oui, alors le problème qu'il y a, c'est que le liseron, c'est une plante très envahissante. Tout dépend le nombre d'années qui sont en place dans son terrain. Il doit avoir un système racinaire qui est extrêmement puissant, si ça fait plusieurs années. Donc, l'épaisseur de copeaux de bois devrait se situer en tout cas du 8-10 cm pour pouvoir les priver de lumière, les mettre vraiment en situation défavorable. Mais dans les bords, où c'est qu'il y en aura moins, il est franchement peu probable que ça ne suffise pas pour les empêcher de se développer. C'est vraiment une des plantes qu'on a du mal à se débarrasser.
Il y a Mélanie de Beuvet qui nous a écrit « Les tiges de mes radis s'allongent après leur germination. Savez-vous pourquoi et comment faire pour y remédier ?»
Alors ça, on appelle techniquement que le semi-fil. Donc ça veut dire qu'on est dans une condition un petit peu trop favorable et puis que le plant pousse trop rapidement. Donc après, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'en général, quand on a des plantes qui filent, c'est plutôt quand on fait des semis de tomates, de choux, des choses comme ça. Donc des plantes qu'on a la possibilité de repiquer après pour les renforcer avant de les mettre au jardin. Donc les radis qui filent, ça voudrait dire qu'elle les a mis dans des caissettes peut-être à l'intérieur pour les remettre ensuite au jardin. Je suis un petit peu étonné parce que normalement, les plantes directement en lieu et place au jardin. Donc il y a quelque chose, il manque un élément là pour répondre correctement.
Mais parce que c'est possible de faire repousser des radis à l'intérieur pendant la période hivernale.
Bah, je pense que c'est possible, mais je ne l'ai jamais vu. Donc, mais tout est possible, oui. Mais le mieux, ce serait d'attendre un petit peu et puis de les semer directement en pleine terre à partir du 15-20 mai. Et puis là, parce que le radis, on ne le repique pas. Donc voilà, on y va d'une façon définitive.
Et puis vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, qu'il ne faut pas se presser pour le potager. Finalement, si on s'y met mi-mai, ça suffit. Il peut y avoir encore des gelées, il peut y avoir des températures
assez basses. Oui, alors effectivement, pour beaucoup de choses, si on attend le 15 mai à peu près pour tout ce qui est des salades, des choses comme ça, justement, on va faire plus d'avance en attendant que la terre se soit bien réchauffée pour démarrer d'une fois pour accompagner jusqu'à la récolte, plutôt que de planter ou semer maintenant. Qu'on a un petit démarrage éventuel, après un petit coup de froid, donc la plante elle va ralentir, elle va se trouver un petit peu fragilisée en période de stress pour redémarrer après. Donc du coup, un semis qu'on ferait ou une plantation qu'on ferait plus tard, elle sera plus rapide, plus forte et on arrivera à de meilleurs résultats. Donc il faut toujours regarder sur les étiquettes, sur justement ce que vous achetez. On a des choses comme les choux qu'on peut y aller, mais il y a des choses comme les salades, des choses comme ça. Attendez encore un petit peu, peut-être.
Gérard de Failly nous a appelé au 0901 70 20 20 et il a une question pour vous, Fabrice, que je vais vous poser. Il aimerait savoir s'il peut déraciner un framboisier en cette période pour le placer ailleurs. Et il a remarqué, est-ce qu'il se demande s'il n'y a pas une tendance à sécher ?
Alors le truc qu'il y a, c'est qu'ils sont en pleine végétation maintenant, donc oui, on peut le faire, mais ce qu'il faudrait, c'est regarder pour obtenir un maximum de racines, et puis s'il est possible de prendre directement une petite motte de terre avec. Puis après, on le met dans une terre bien meuble, bien arrosée. Et puis après, on risque d'avoir de nouveau un petit choc de plantation, un coup de baisse de la plante. Mais si on suit à l'arrosage, il devrait repartir, il devrait aller. Le framboisier, c'est quand même une plante qui est assez résistante et puis assez vigoureuse.
Merci Fabrice.
Merci Fabrice. Ben oui, on reçoit des questions, beaucoup de questions ce matin. Merci hein, par SMS, par téléphone. On a reçu cette question d'orchidée. C'est Jean-François qui baigne son orchidée toutes les semaines et il a remarqué la dernière fois qu'il y avait des petites mouches qui s'échappaient du pot. À quoi cela est-il dû, Fabrice? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, c'est probablement dû, en fait, l'orchidée a pour substrat, pour accroche au niveau de la racine, tout ça, c'est des écorces. Donc, on a probablement juste une petite mouche qui a dû venir pondre là-bas dedans, parce que l'humidité lui convient bien pour se reproduire. Donc, par rapport à ça, il faudrait assainir ça, peut-être en remplaçant ou en regardant si on peut faire un petit traitement pour évacuer tout ça.
Et puis, allez-y, Sarah, allez-y.
Non, c'est bon, vous aviez une autre question par rapport à ça?
Oui, justement, en fait, les orchidées qui ne poussent pas, c'est-à-dire que les fleurs ne viennent pas forcément régulièrement, est-ce qu'on peut tenir une orchidée comme ça pendant des années sans qu'elle fleurisse et puis ensuite avoir une fleur?
Oui, parce qu'elle va mettre sa floraison en place par rapport à plusieurs facteurs, comme on l'a vu tout à l'heure pour, par exemple, l'olivier, c'est toujours des facteurs comme l'arrosage, comme l'engrais, et puis comme son emplacement. Donc, une fois que toutes ces choses sont réunies, elle sera en condition optimum pour se développer et pour apporter une floraison. Donc, si une plante ne fleurit pas, ça veut dire que soit elle n'a pas reçu assez d'engrais, donc elle n'a pas les éléments qu'il lui faut pour développer une floraison, ou alors si elle n'est pas à la bonne place par rapport à l'ensoleillement, à son exposition, donc il faudra peut-être la faire tourner dans la maison pour trouver l'emplacement qui lui convient. Mais de là aussi, si vous partez avec de simples renseignements que vous pourrez trouver sur l'étiquette ou sur un moteur de recherche, vous allez voir déjà pouvoir cibler déjà quelle partie de la maison pourrait lui convenir et après, elle devrait développer une floraison.
Géraldine de Courgenay a reçu un arrangement de fleurs en pot dans lequel se trouve une jacinthe et elle trouve que l'odeur prend beaucoup trop dans son salon. Est-ce que si elle la met dehors, elle peut laisser dans un pot ou c'est préférable de la planter dans une allée?
Disons que si, c'est vrai que si l'odeur l'incommode, il faut qu'elle l'éloigne de la partie où c'est qu'elle se tient souvent. Et puis après, libre à elle de la mettre dans un passage, de la laisser dans le pot, de la laisser dans un passage où c'est qu'elle sera moins incommodée ou alors de la mettre dehors. Effectivement, il faut qu'elle fasse ça si c'est une odeur qui l'incommode vraiment.
On a reçu une autre question concernant des mini-rosiers que notre auditeur de Beauvais, Christian, a mis à l'intérieur de son appartement. Alors les boutons se sont bien formés, mais il n'y a toujours pas de rose. La tige semble sécher, mais les feuilles sont en bonne santé. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors il y a un truc qui m'interpelle là quand même, c'est que si vous dites que la tige semble sécher mais que les feuilles sont impeccables, là il y a un peu une contradiction parce que normalement c'est les feuilles qui sèchent puis après la tige, mais les tiges sèchent pas et puis les feuilles restent pas vertes. Donc il y a quelque chose, ça manque de précision, il y a quelque chose qui est pas clair à ce niveau-là. Donc mais ce qu'on peut dire d'entrée de jeu de nouveau, c'est de nouveau un problème d'entretien, d'emplacement. Si on a tous les bourgeons qui se sont formés et puis qu'ils ne s'ouvrent pas, si c'est un rosier d'intérieur, on devrait peut-être moins apporter d'eau, un petit peu d'engrais, parce que entre les apports d'engrais d'hiver, où c'est qu'on fait une fois tous les 3-4 semaines, puis les engrais pour les plantes en pot, qu'on va faire une fois par semaine quand on est en période de développement, déjà là les apports sont différents, donc ça peut répondre déjà à ça. Après, une fois que la plante aura emmagasiné la nourriture qu'il lui faut, elle devrait ouvrir sa floraison. Maintenant, au niveau de l'emplacement, c'est de nouveau pareil. Il lui faut un petit peu de chaleur, un petit peu de lumière. Donc regardez si justement il est à la bonne place. Et puis après, regardez avec ses feuilles et ses tiges. Je pense que là, il y a un petit couac.
Je pense que certaines tiges sont sèches et d'autres non.
Alors si c'est juste quelques petites branches, comme vous dites, qui sont sèches, qu'il faut faire simplement, c'est les couper pour nettoyer la plante. Et puis après, ça devrait aller, quoi. Ouais.
Il est bientôt 8h, les jardinières, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà prêts à vous rendre au jardin. Merci Fabrice Rondet d'avoir répondu à toutes les questions des auditeurs. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.
À vous aussi, merci.
Les jardinières reviennent la semaine prochaine, mais pas la peine d'attendre jusqu'à samedi pour poser vos questions. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou grâce au formulaire présent sur nos sites. Et vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.